Mondial Sport,
RFI,
Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondial Sport, tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI chaque week-end. Et aujourd'hui, on va effectivement multiplier les terrains de jeu. Hier, nous étions accaparés par la finale de la Ligue des Champions. Nous reviendrons sur le nouveau sacre du Real. Promis, le train madrilène est arrivé à l'heure sur les antennes de RFI. 15e coupe aux grandes oreilles pour la Maison Blanche. Davantage de nouveautés sur les parquets de la Basketball Africa League. Pour la première fois, une équipe d'Afrique subsaharienne remporte la NBA du continent. Vive le pétro de Luanda. Enfin, la pluie ne perturbe plus les coups de raquette à Roland-Garros. Le grand chelem parisien arrive à mi-parcours. On parlera d'On Jabeur qui vient de se qualifier à l'instant. Large page également consacrée au seul Français toujours en lice chez les hommes, à savoir Corentin Moutet.
Et Cédric, ça va bientôt partir. Imagine habituelle, les joueurs de Dortmund en jaune qui ont été salués.
Très belle image d'ailleurs. C'est parti. Voilà, à l'instant avec les joueurs du Borussia et Brechan qui a le ballon au milieu de terrain. On essaye de faire tourner voilà, du côté des Allemands. Ballon pour Mats Hummels, pour Schlotterbeck. Maintenant avec les joueurs du Real qui font déjà un petit pressing. Et la but ! Le but du Real Madrid ! Et c'est Dani Carvajal qui vient marquer le but. On le disait, ils étaient dangereux, son coup de pied arrêté. Et voilà l'idole, le vétéran espagnol Dani Carvajal, latéral, qui sait tout faire. Et c'est lui qui est venu couper ce ballon de Toni Kroos, la tête croisée. Ça fait 1-0 pour le Real. Et le deuxième but du Real Madrid. Le but du Brésilien, il avait déjà marqué il y a 2 ans. Et il dit effectivement, c'est ici, c'est le Real. La petite danse du Brésilien. Ça fait 2-0, c'est terminé à Wembley avec la victoire du Real Madrid qui s'adjuge donc sa 15e Ligue des Champions. Victoire 2-0 face à Dortmund avec début de Carvajal et de Vinicius. La joie des Madrilènes. Ils n'ont pas forcément fait leur plus belle finale, mais encore une fois, le Real réaliste encore une fois eh bien, cette culture de la gang, cette expérience qui a fait la différence. Dortmund a tout tenté, mais n'a pas été assez réaliste. 15e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid.
La 15e et même la 6e en 10 ans. Avant de changer de formule, la reine des compétitions de football renouerait presque avec ses origines hein, lorsque la Ligue des Champions était exclusivement remportée par le Real Madrid. Hier, vous l'avez suivi sur RFI, donc les merengués n'ont pas, mais alors pas du tout séduit, mais comme d'habitude, si je puis dire, ils ont gagné la coupe aux grandes oreilles à la fin. Bonjour Karim Baldé.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Notre consultant vedette, n'ayons pas peur des mots, le Real Madrid des consultants à lui tout seul. Vous étiez présent hier déjà dans notre studio, Karim. Alors on assure le service après-vente, puisqu'hier on a parlé finale de Ligue des Champions, mais comme on est un peu des esthètes, des puristes, on s'est plongé dans les plus belles finales de l'histoire. Pas sûr que dans 20 ans, le successeur de Karim Baldé à ce micro, lorsqu'il lui faudra choisir un petit peu ses Madeleines de Proust en termes de finale, choisit celle de 2024, malgré la qualité des archives et des commentaires pour RFI de Cédric d'Olivera.
Pas sûr effectivement, parce que comme on le disait hier, et c'est pour ça que c'est toujours bon de se replonger dans l'histoire, finalement la finale 2024 aura été dans la lignée des éditions précédentes. Peu de buts, peu de retournements de situation, et au final une victoire très logique du Real Madrid.
Et on pourrait dire qu'il y a eu un peu de suspense, parce que
oui, quand même.
Finalement, on s'est dit que le roseau Real allait enfin rompre, parce que il y a eu quand même d'énormes occasions pour Dortmund en première période, et puis une, deux, trois opportunités que vous laissez passer. C'est vrai que là, on sent que ça va être comme d'habitude, le Real ne va pas rompre.
On le sentait en fait dès la fin de la première période. Après ces trois occasions manquées du Borussia Dortmund, il y a eu quand même une frappe de Füllkrug sur le poteau, l'occasion pour Karim Adeyemi notamment. Finalement, on savait que l'issue était inéluctable. Et c'est là où le Real Madrid a une force psychologique avant même le coup d'envoi. C'est-à-dire que avant même que le match commence, on sait que le Real Madrid peut marquer à n'importe quel moment. On sait que même si Dortmund avait marqué, par exemple, à mon avis, je pense que le Real aurait remonté la situation. Ils ont cette sérénité, ils ont cette assurance qui fait que même en jouant comme des sénateurs, même en étant mauvais, d'ailleurs certains joueurs l'ont dit, hein, comme Thibaut Courtois, en première période, ils n'avaient pas les clés face au Borussia. Et ben finalement, en deuxième période, à l'usure finalement, mais on a senti qu'au niveau physique, le Real était supérieur et dans les 30 dernières minutes, le Real a imposé sa loi et puis on a vu ce qui s'est passé au final.
Donc il y a un suspense, mais il n'y a pas de suspense, puisque même quand il y a du suspense, en fait le scénario attendu c'est que le Real s'adjuge la situation d'une manière ou d'une autre.
C'est ça.
C'est ce qui s'est passé avec même un défenseur latéral pas très grand qui marque un but de la tête. Donc vraiment, on se demande par quel bout prendre le problème.
Bah oui, parce que soit Dortmund marquait en premier et le Real aurait eu cette capacité de réaction, soit le Real marquait en premier et la finale aurait été pliée beaucoup plus tôt que ce qu'on a vu hier. Donc c'est vrai que finalement, les chances de Dortmund étaient très réduites. Après, il faut quand même rendre hommage à cette équipe du Borussia Dortmund qui a tenu tête au Real Madrid, qui avait éliminé le Paris Saint-Germain au tour précédent. Et surtout, ce qu'on peut louer du côté des hommes d'Edin Terzic, c'est cette rigueur tactique quand même, notamment en première période. Ils sont restés dans leur schéma et ils ont réussi à inquiéter le Real Madrid qui ne proposait pas grand-chose, notamment en première période. Donc quand même, chapeau à cette équipe de Dortmund et chapeau à ses supporters parce que le mur jaune s'est délocalisé de Dortmund à Wembley et ça, c'était vraiment impressionnant.
C'était la troisième finale du Borussia Dortmund, la deuxième perdue à Wembley. c'était 97, on en a parlé hier, la seule victoire et c'était... Pas à Dortmund, mais à Munich. Donc, dans le même pays, oui. C'était peut-être la solution hein, pour Dortmund de jouer, pas à domicile, mais presque pour remporter la finale de la Ligue des Champions. Bravo au Real Madrid. Et bien sûr, ça valait le coup d'y revenir quelques instants ici dans Mondial Sport. Bien sûr, on y revient un peu plus longuement dans le rendez-vous incontournable pour parler Real Madrid, Ligue des Champions et football en général. Radio Foot International. On se retrouve à partir de demain et toute la semaine, 16h10, temps universel, sur. RFI Mondial Sport, nous on va revenir à nos premières amours multisports, si je puis dire, juste après un peu de musique. Game over, alors ce n'est jamais game over pour le Real Madrid bien sûr, c'est juste le message que le géant madrilène envoie à ses adversaires, c'est aussi celui du Venezuela et de Rawayana dans notre émission sur RFI. Game over, Rawayana, ça nous vient je crois du Venezuela. Se siente bien cabrón, en verdad. Yo te dije que un besito no me iba a enamorar. Y metiéndote en mi cama ya me quería casar. Bien cabrón, que se siente bien cabrón, en verdad. Bien cabrón, que se siente bien cabrón, en verdad. Me fui para el underground, claro que te tenía manifestar. Siempre quise una como tú a mi lado. Que con actitud dieron golpe down. Y me quité la libertad, ta. Una tiranía de puro tira, tra. Lo quieres delante, lo quieres atrás, tra, tra, tra. Game over. Esa actitudcita me trae. Game over. Bailando divino, esto es game over. Game over. Yo te dije que un besito no me iba a enamorar. Y apenas toqué tus labios ya me quería. Rawayana, game over sur RFI. Oui, on s'est arrêté pile poil au moment de la pause dans le morceau. Game over, mais non, Karim Baldé, ne vous inquiétez pas. Mondial Sport ne fait que commencer sur les antennes de la Radio du Monde. Well, there's still seconds left on the clock, 9.9 seconds. You can't celebrate just yet, it's not over. It's just a question of seconds before this entire arena erupts.
sure Delawanda have done it. In their fourth attempt, their second final, they get themselves the crowns as champions of Africa. What a final we've had. We've been absolutely, well, blessed with an extraordinary battle between two worthy African giants. And the BAL goes to Southern Africa for the first time in four seasons, Q.
Fourth time's the charm in BAL season four for Petro de Luanda. Congratulations.
Petro de Luanda, ils étaient prêts à bondir, à exploser de joie avant même la fin du match. Ils menaient de 7 points à quelques secondes à peine du buzzer, donc c'est de bonne guerre. Les joueurs du Petro de Luanda ont fini par laisser libre cours à leur bonheur après la rencontre. Première victoire en Basketball Africa League pour les Angolais aux dépens des Libyens d'Al Ahly, à ne pas confondre avec les Égyptiens, bien sûr du même nom, qui eux étaient tenants du titre et qui laissent leur place donc aux Angolais du Petro, troisième lors de la première balle, finaliste lors de la deuxième et vainqueur donc de la quatrième édition de cette NBA du continent, un juste retour des choses pour un grand pays de basket. Ça s'est passé sous les yeux de notre monsieur Ball hein, dans Mondial Sport, à savoir Malik Dao, qu'on va écouter dans un instant. En attendant, petit bilan de cette Basketball Africa League, quatrième du nom, signée Lucie Mouillot, correspondante à Kigali, la capitale rwandaise, qui a évidemment accueilli une nouvelle fois le dénouement de cette Basketball Africa League.
Cri de joie des supporters des Petro de Luanda à la fin du match, dans le stade rempli de spectateurs, Tom Olwosh et sa famille. Un moment à ne pas rater pour le Kenyan qui vient pour la deuxième année consécutive assister à la compétition.
Le basket est un sport que j'aime beaucoup, donc c'est bien de pouvoir voir ces matchs et aussi de voir des stars africaines briller sur le continent africain, ici à Kigali, avec un niveau de basket professionnel.
Un championnat de plus en plus populaire. Cette année, plus de 100 000 spectateurs ont assisté aux matchs des phases finales et des conférences qui les ont précédées au Caire, à Dakar et à Pretoria. Une plateforme de plus en plus importante pour le développement des clubs et basketteurs africains, explique le joueur d'Al Ahly Liby, Solo Diabaté.
On a des équipes surprises, on a des joueurs qui émergent, que moi je ne connaissais pas, et qui viennent, qui ont montré vraiment beaucoup de belles choses. Des jeunes aussi qui arrivent à se montrer à travers la balle pour peut-être aller en université, aller en G-League. Pour ces jeunes-là, c'est bien et il faut que ça continue comme ça.
Cette année, pour la première fois, un club d'Afrique subsaharienne remporte le trophée de la balle après trois saisons dominées par des équipes d'Afrique du Nord. Une ligue de plus en plus compétitive, affirme Carlos Moraes, capitaine des Petro de Luanda.
C'est la saison la plus difficile depuis le début et on l'a gagnée. Le niveau progresse. Vous voyez que beaucoup de bons joueurs veulent jouer à la balle maintenant. Beaucoup de médias viennent pour couvrir la ligue. Beaucoup de jeunes veulent commencer à jouer au basket parce qu'ils regardent la balle. Alors moi, je pense que ça va être de mieux en mieux.
Objectif ambitieux du championnat, devenir la deuxième meilleure ligue de basket au monde. Une vision partagée par l'ancienne star de la NBA, Lou Holding, investisseur de la NBA Africa et président de la Fédération de basket sud-soudanaise, promoteur du retour sur le continent des grandes stars africaines.
Il y a plusieurs joueurs, quand on a commencé la balle, qui pensaient que ce n'était pas une bonne ligue et que ça pourrait faire baisser leur valeur. Puis, Ater Majok a joué et d'autres ont commencé à voir le niveau. Nos fans voyagent pour venir et ça a commencé à devenir un sujet. Alors que ces joueurs soient ici, ça montre le changement de mentalité, qu'on peut revenir sur le continent, pas seulement jouer, mais faire de l'argent. Et c'est le message qu'on veut porter.
Une ligue prête à déménager pour sa cinquième édition, dont les phases finales seront pour la première fois organisées dans un autre pays que le Rwanda. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Karim Baldé, vous avez beaucoup aimé l'intervention de Lou Holding dans ce reportage, ancienne star de la NBA et aujourd'hui figure de proue d'un certain renouveau d'une nouvelle ère pour le basket africain.
Clairement, et en regardant les matchs de la BAL, notamment les phases finales cette année, on se rend compte du chemin parcouru et à quel point la BAL se rapproche de la NBA sur le côté spectacle. Même quand on voit les actions, par exemple, c'est beaucoup moins cadenassé que dans le basket européen. Il y a ce côté show à l'américaine qu'on veut mettre en place également à l'échelle du basket africain. Et je trouve que ça fait un bon mélange au final et ça donnait des matchs en plus hyper ouverts.
Alors, je vous ai promis notre monsieur BAL, vous êtes pas mal en termes de basket, Karim, mais peut-on vraiment rivaliser avec Malik Dao qui commente les matchs pour Canal+. Malik Dao qui est dans l'avion à l'heure où on se parle, mais qui a pris le temps de décrocher son téléphone avant d'embarquer. Alors on va remonter le temps tous ensemble. Hop, petit rembobinage, vous faites l'effet dans votre tête et on dit bonjour Malik.
Bonjour Hugo, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Le dénouement de la balle, vous l'avez suivi hier, un nouveau champion dans cette compétition, le Petro de Luanda, le club angolais, premier sacre pour cette équipe et j'ai envie de dire un petit parfum de nostalgie pour le basket africain, tant l'équipe nationale d'Angola avait l'habitude de dominer l'afro-basket au niveau des équipes nationales. C'était plutôt logique de voir l'Angola inscrire son nom, en tout cas avoir un club qui inscrit son nom au palmarès de la Basketball Africa League, non ?
On est tout à fait d'accord, on est tout à fait d'accord parce que depuis 2013, l'Angola n'a plus rien gagné au niveau des sélections nationales. Et le Petro était sur 3 échecs déjà consécutifs, avec une finale perdue à la clé. Et puis hier, bah, le Petro a remporté sa première finale de la Basketball Africa League, qui coïncide aussi peut-être avec la dernière saison de l'emblématique Carlos Moraes. Voilà donc, tout est bien qui finit bien pour eux.
Alors parlez-nous justement de ce joueur emblématique qui a inscrit son nom au palmarès de la BAL.
Ben, on va dire que c'est le seul trophée que Moraes n'avait pas gagné. Parce que Moraes, il a fait les Jeux Olympiques, il a fait la Coupe du Monde. Il a même joué contre Dwayne Wade et le fils de Dwayne Wade, Zaire Wade. Voilà pour dire qu'à 39 ans, bientôt, c'est vraiment une légende du basketball africain. Mais en 3 éditions de BAL, il était sur 3 échecs. Et tout le monde était presque content et soulagé pour lui.
Alors justement, cette finale victorieuse du Petro, vous en avez pensé quoi ? Est-ce que ça a été un beau match ? Est-ce que ça vient conclure une belle phase de play-off, une belle phase finale de la Basketball Africa League ?
Alors, paradoxalement, hein, c'est l'année où le Petro a semblé le moins souverain, le moins dominateur qu'il remporte la BAL. Parce que le Petro qu'on a vu au mois de mars à Pretoria, c'était un Petro moribond. Sur les premiers matchs ici de classement à Kigali, c'est un Petro qui n'est pas bon du tout. Et puis finalement, le Petro remporte cette édition de la BAL. Pour dire que sur la finale d'hier, la richesse de l'effectif a quand même fait la différence. Parce que le banc marque 51 points sur les 57. Alors que Alali avait tellement tiré sur son 5 majeur depuis l'Égypte, que finalement, ces joueurs-là se sont retrouvés émoussés.
Malik, ça fait du bien, vous diriez ça, de voir le titre en Basketball Africa League rejoindre une nouvelle sous-région, si je puis dire. Jusqu'ici, c'était les clubs d'Afrique du Nord qui étaient abonnés à la victoire finale. On avait eu Zamalek, puis Monastir de Tunisie, puis retour au Caire avec Al Ahly. Et cette année, donc, un club d'Afrique centrale, c'est une bonne chose, sachant que lors de cette édition 2024 de la Basketball Africa League, on a également eu, durant la saison régulière, une nouvelle conférence en Afrique du Sud. La balle s'élargit et le champ, le périmètre de ses vainqueurs s'élargit également.
Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un pays lusophone, c'est un pays d'Afrique noire qui gagne. Et puis, on a les Cape Town Tigers qui rentrent dans le dernier carré parce qu'ils finissent quatrième. Voilà, si la BAL peut permettre aussi aux clubs un peu partout en Afrique d'émerger, c'est une bonne chose. Les River Supers du Nigeria, qui sont eux sur le podium, qui finissent troisième. Voilà, il y a un assez beau découpage, on va dire, des lauréats de cette BAL.
Oui, il manque peut-être un titre pour l'Afrique de l'Ouest. L'année dernière, la S-Douane du Sénégal qui était en finale. Il y a une des conférences de la saison régulière qui, justement, se déroule au Sénégal. Là, vous parliez des Nigérians de Rivers Hoopers. Peut-être qu'il manque maintenant cette sous-région au palmarès, étant donné qu'elle figure parmi les piliers de cette BAL depuis 2021.
Ben, complètement, complètement d'accord. Hein, complètement d'accord. Ce serait bien que le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ces pays-là puissent aussi émerger pour remporter un jour la BAL afin que l'Afrique de l'Ouest puisse aussi se réjouir parce que le siège de la BAL d'ailleurs est à Dakar. Donc voilà, pourquoi pas un club sénégalais l'année prochaine.
Et vous vous êtes régalé en termes d'ambiance, d'accueil, d'organisation à Kigali. Vous quittez la capitale rwandaise avec regret pour aller vers une destination encore inconnue l'année prochaine, à l'occasion du dénouement de la Basketball Africa League, Malick Daou.
Oui, on va dire qu'en quittant Dakar, on était un peu inquiet parce que l'APR, qui est le club rwandais, n'était pas qualifié. Donc on se demandait bien qu'est-ce qu'on allait trouver ici comme ambiance, qu'est-ce qu'on allait trouver comme état d'esprit. Et on a été agréablement surpris. Tous les matchs étaient suivis par un très nombreux public avec une grosse affluence, une grosse ambiance aussi à l'intérieur de la salle. La fan zone était prise d'assaut par les jeunes qui venaient aussi profiter des animations. Et franchement, c'est très très bien. C'est très très bien. L'année prochaine, on ne sait pas où ça va se dérouler, mais cette année, le Rwanda a vraiment répondu présent et on est très satisfaits.
Quand vous dites en quittant Dakar, c'était à l'issue de la dernière phase de la saison régulière, la conférence Sahara, qui est abritée à Dakar et à l'issue de laquelle APR, club représentant du Rwanda dans la BAL, n'a pas validé son ticket pour chez lui, si je puis dire, pour les playoffs, la phase finale que vous nous avez parfaitement raconté par téléphone. Vous êtes sur le point de revenir à Paris. On vous retrouve très vite dans Mondial Sport. Merci Malick Daou.
Avec plaisir Hugo.
Malick Daou, qu'on prend plaisir à écouter parler basket africain, Basketball Africa League. Vous avez envie de réagir, Karim Baldé, peut-être sur cette fierté de voir l'Afrique subsaharienne, pour ne pas dire l'Afrique noire, enfin mettre son nom au palmarès de la Basketball Africa League et montrer aussi que il y a d'autres traditions de basket que celle de l'Afrique du Nord. Pour pas aussi que la balle devienne la Ligue des champions de football.
Exactement, c'est ce que j'allais dire en fait Hugo. C'est vrai qu'il faut pas que ce soit confisqué par une partie du continent. Donc le fait que ce soit le Petro de Luanda qui est en plus impliqué dans d'autres sports que le basket, on pense évidemment au club de football du Petro de Luanda, ça fait du bien. Et comme Malick le disait justement, ça va inciter d'autres pays, Côte d'Ivoire, Nigeria aussi avec l'équipe qui a joué cette année dans la phase finale. Rivers Hoopers, exactement, ça va les inciter. Et puis il y a beaucoup de joueurs aussi, on entendait Solo Diabaté tout à l'heure dans le sujet, il y a beaucoup de joueurs d'Afrique francophone qui sont déjà présents. Donc ce serait bien qu'il y ait, en plus de la S-Douane par exemple, d'autres franchises ou d'autres clubs qui émergent sur la durée, pas seulement une année, mais vraiment que sur 2, 3, 4, 5 éditions consécutives, on puisse les rencontrer en phase finale.
Vous avez des origines guinéennes, vous savez si on a suivi en Guinée la Basketball Africa League, si on n'a pas de représentant.
Ouais, quand j'y étais en avril, c'était pendant justement l'une des conférences. Disons que s'il n'y a pas le club guinéen comme ça a été le cas l'année dernière, forcément l'enthousiasme empathie. Donc ça aussi, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait des clubs et des franchises d'Afrique de l'Ouest qui puissent rester au niveau pendant 2, 3, 4 ans et peut-être que ça va fédérer au-delà du pays, mais peut-être un peu l'ensemble de la sous-région.
On en reste là avec le basket. Peut-être que vous vouliez quand même dire un mot, parce que c'est un feuilleton aussi qu'on suit sur Mondial
NBA.
Sport. On y va rapidement, juste pour dire qu'on connaît l'affiche des finales NBA. Ce sera Celtics de Boston contre
les Mavericks
de Dallas. un mot sur cette finale. Alors Boston, c'est vraiment l'autoroute.
C'est le cavalier seul. On l'avait dit quasiment ici ça s'est confirmé.
Qui sera en finale. Dallas, on s'y attendait aussi. Affiche de rêve, c'est une affiche logique. Vous le connaissez, vous en pensez quoi?
C'est une affiche logique, je ne sais pas. Parce que moi, j'aurais vu Denver, mais Denver avait été sorti au tour précédent. Et Minnesota, qui a fait une très grosse saison régulière, est arrivé jusqu'en finale de conférence.
Du côté de Dallas. Hein.
Voilà, exactement. Et Minnesota a donc été battu par Dallas. Donc, ça va être une belle finale, en tout cas, plus accrochée que ce qu'on pense, à mon avis.
Et promis, on va suivre ça de très près dans Mondial Sport sur RFI.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Dans un instant, tennis, suite de Roland-Garros dans notre émission. Mais avant, le rendez-vous du dimanche, c'est désormais une habitude, un billet pour la Ville Lumière. Dans l'ombre des athlètes, nous collons à différents Africains qualifiés pour les Jeux de Paris cet été. Nous suivons leur préparation. Aujourd'hui, deuxième épisode consacré à l'escrimeur nigérien d'origine française, Evan Abba Giro. Il a 20 ans, il s'entraîne à Orléans, au sud de Paris. Il nous raconte son quotidien. Alors sans surprise, c'est assez studieux quand il a l'arme à la main, mais pas que.
Pour moi, ça va être un lever aux alentours de 8h, ensuite un petit déjeuner équilibré. Je me dirige après au club où on va
pouvoir commencer à s'échauffer tranquillement avec mes partenaires d'entraînement. Ensuite, le matin, ça reste souvent soit des leçons individuelles, soit du physique, soit de la course. Voilà. Du coup, le matin, c'est assez physique. L'entraînement qui se termine aux alentours de midi et demi, 13h. Ça dépend des jours. Ensuite, c'est la pause du midi. Du coup, je rentre chez moi, je mange. J'ai un peu de temps pour moi. Je peux réviser, je peux faire de la musique, je peux dormir. Souvent, je fais une sieste. Et ensuite, je repars à l'entraînement pour 16-17h. Et là, le soir, ça va plutôt être de l'entraînement d'escrime, de la main, de la technique, de la tactique et des matchs. Des matchs jusqu'à la fin de soirée, vers 20h30, 21h. Mais après, voilà, chaque jour est différent. Et c'est mon coach qui me prépare mon programme et qui me l'envoie tous les débuts de semaine. Comme ça, je suis calé. Et après, voilà, on avise en fonction si la semaine d'avant était difficile. On voit l'état de fatigue, on voit ce qui est important de travailler cette semaine. On voit les points forts, les points faibles. On fait de l'analyse de match, l'analyse vidéo. Et voilà. Et je suis actuellement à la fac à l'université d'Orléans, où je suis en génie mécanique et productique. C'est un BUT. Mais j'ai dédoublé ma deuxième année afin de pouvoir m'entraîner. Comme vous voyez, je m'entraîne deux fois par jour, ce qui ne laisse pas beaucoup le temps en cours, notamment ces derniers temps. Et je dois passer les examens courant mai, fin du mois, courant juin. Voilà.
Evan Abagiro, donc qui représentera le Niger en escrime, qui nous rappelle qu'à 20 ans, même quand on est un athlète olympique, on a aussi des études et une vie finalement assez classique. L'escrime, ce n'est pas forcément le sport le plus rémunérateur et qui vous place dans une bulle hors sol.
C'est vrai, on l'oublie souvent d'ailleurs, hein, pour tous les athlètes, tous les Olympiens, tous ceux qui vont participer aux Jeux Olympiques, hormis les sports majeurs, hormis les grandes stars des grandes disciplines comme la natation, l'athlétisme.
Ce sont des kidam, d'une certaine manière, des jeunes gens.
Qui ont un travail, des jeunes gens, des étudiants, des travailleurs, et qui parfois galèrent aussi un petit peu pour trouver des financements aussi pour la préparation. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait des aides aussi un petit peu pour eux selon les pays, et puis qu'eux-mêmes puissent se structurer un maximum.
Et vous me disiez que vous étiez curieux d'entendre un escrimeur. Karim Baldé, ça fait partie des sports que vous suivez attentivement lors des Jeux Olympiques. C'est le sport olympique, pas par excellence, mais presque pour vous.
Quasiment, oui. C'est vrai que c'est pas un sport que je vais suivre au quotidien, mais dès que les Jeux Olympiques arrivent, ça fait des sports suivis, et notamment en France, parce qu'il y a en général beaucoup de médailles qui proviennent de l'escrime. Mais moi, quand je me remémore mes souvenirs d'enfance, que ce soit Sydney 2000, les premiers Jeux dont je me souviens vraiment, Laura Flessel, enfin tous ces escrimeurs-là et escrimeuses qui ont marqué aussi, qui ont marqué de leur empreinte l'histoire des Jeux Olympiques et l'histoire de la France aux JO via un sport comme l'escrime.
Et les épreuves d'escrime auront lieu dans un lieu, un écrin magnifique,
ouais.
Voilà, sous le
Grand Palais.
Le toit du Grand Palais, à deux pas des Champs-Élysées. Vous allez en prendre plein les mirettes, à défaut de comprendre toujours comment ça fonctionne les combats d'escrime.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Allez, comme promis, le tennis à présent dans notre émission, puisqu'après une semaine d'échanges, il ne reste plus que deux Français en lice à Roland-Garros. Une chez les dames, on en a parlé hier. Et un chez les hommes, son nom, c'est Corentin Moutet. C'est pas forcément celui qu'on attendait le plus, c'est pas forcément le plus consensuel, mais voilà, il ravit le public et les spectateurs qu'a rencontré Éric Mamrud, Porte d'Auteuil.
J'avais dit quoi ?
Un Français dans le tableau, bien sûr, Corentin Moutet. J'ai vu tous ses matchs. Il est spectaculaire et intéressant. On a vu comment il servait. À la louche.
Ça vous plaît, là, les services à la louche ou à la cuillère?
Absolument, ça c'est le spectacle. On vient voir le tennis, entre autres, pour le spectacle. Il fait du spectacle pour le public et il le dit, oui, il y a une osmose avec le public.
J'ai adoré le voir jouer et bien aimé son tempérament sur le court aussi. De tout ce que je vois là, j'ai vraiment vu un jeu qui est très très particulier et bien à lui. Sacrée ambiance et belle ambiance, et j'ai trouvé que le public était sensationnel aussi.
Et vous avez qui ne saute pas n'est pas Moutet ou...
Oui, un petit peu, je me suis laissé prendre au jeu. Ouais, c'était génial.
qu'il dégage avec le public, c'est assez fort. Un peu comme mon fils aussi aime bien le faire.
Sa personnalité, rap...
Ouais, c'est sympa, ça donne un peu de fraîcheur aussi, quoi. C'est cool. Les jeunes, on peut se projeter un peu aussi là-dedans, quoi. Donc c'est bien.
On est hyper content qu'un Français puisse arriver en 8e. Il a un jeu atypique, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément un coup fort, mais il a une palette de jeux hyper diversifiée. Il est imprévisible et il n'a jamais un coup qui est pareil que le suivant. Donc c'est hyper intéressant et je pense que pour les adversaires, c'est très compliqué de jouer contre lui. Et on voit que quand le public est vraiment derrière lui, il peut se transformer et augmenter son niveau de jeu. À mon avis, il y a moins qu'il prenne un set quand même à Sinner.
Bravo à nous, merci beaucoup. Bravo à nous pour aujourd'hui. On a été forts, merci beaucoup pour votre soutien.
La Moutémania au micro d'Olivier Pron. Non, au micro d'Éric Mamrut. Olivier Pron, c'est l'autre envoyé spécial à Roland-Garros ce dimanche. Et lui, il est en direct avec nous dans Mondial Sport. Bonjour Olivier.
Et bonjour Hugo, bonjour Karim, bonjour à tous.
Le service à la cuillère, c'est la première chose qu'on entend et qui accroche apparemment le public à Roland-Garros. Il sert à la cuillère, Corentin Moutet, la sensation, la française, le Frenchie pour l'instant de cette quinzaine à Roland-Garros.
C'est le premier Français en huitième de finale depuis 2020. Hugo Gaston, cette édition qui s'était déroulée, vous vous en souvenez, en octobre, pour cause de Covid. Et ce soir, il jouera pour une place en quart de finale. Ça fait combien de temps, messieurs, qu'on n'a pas eu un Français en quart de finale à Roland-Garros ?
Le dernier, c'est peut-être mon fils, non ?
C'est une colle, on n'a pas bien étudié.
Ouais, 2016, Richard Gasquet, ça fait quand même 8 ans.
Ah, ça remonte, oui.
8 ans, vous imaginez? Et puis il aura fort à faire face à Jannik Sinner. Et figurez-vous que pendant qu'on se parle, messieurs, il est juste en dessous de moi, c'est-à-dire sur le cours central où vient de se terminer un double mixte premier tour absolument fabuleux entre 4 illustres inconnus. On s'est régalé. Et les 12 spectateurs présents aussi. ils vont revenir, c'est propre. Mis à 20h15 pour voir Corentin Moutet là, qui ne s'économise pas, alors forcément le public revient. Il y a plus de monde pour voir l'échauffement de Corentin Moutet que pour suivre un double mixte il y a quelques minutes. C'est normal, encore une fois, c'est le dernier Français en lice, mais enfin face à Jannik Sinner, l'Italien numéro 2 mondial, l'homme qui a dû quoi 2 défaites depuis le début de l'année. Il a remporté l'Open d'Australie. Bref, c'est un épouvantail.
C'est
je vais vous donner
pas
deux
bien engagé. C'est pas bien engagé apparemment.
Deux statistiques. Sinner face aux Français, 17-0. Bon, okay. Déjà, c'est carré.
Ça calme.
17 matchs. Voilà. Et Corentin Moutet face aux membres du top 10, 11-0. C'est-à-dire qu'il a perdu les 11 fois où il a joué des
membres.
Ah
oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le 11-0 dans le mauvais sens.
Ah oui, je vous ai laissé espérer. Mais bon. En tout cas, il est là et il enchante le public parce que, voilà, comme vous le disiez, Hugo, il a ce caractère. Et puis.
Oui, c'est un peu un bad boy, non ? C'est un peu.
Ouais.
Un petit peu trop. Bon, c'est un rappeur. Alors, on va dire bad boy. On va revenir 30 ans en arrière. On va dire que c'est un bad boy.
Ouais, non. Oui, il a un caractère bien trempé, que ce soit avec la presse il y a quelques années où il n'avait pas que des amis. Je pense qu'il s'est un peu assagi depuis. Il a surtout grandi. Hein. Il a 25 ans quand même, Corentin Moutet. Mais c'est vrai que l'autre jour, après son match, il n'a pas compris une question. Vous savez, ces intervieweurs qui viennent sur le terrain interroger les vainqueurs. Il a dit, non mais là, j'ai pas compris. Alors le garçon a reposé sa question. Et je comprends toujours pas. C'est-à-dire que voilà, il s'embarrasse pas de formules de politesse. Il est là... pour jouer, pour dire ce qu'il pense, et après tout, dans le sport aseptisé, le tennis aseptisé d'aujourd'hui, pourquoi pas ? Il est surtout très agréable à voir jouer, c'est autre chose, voilà. Il a ce qu'on appelle, dans le jargon, une main, et donc il est capable de vous faire des amortis, de vous faire des coulons, de vous faire des volets, il sait à peu près tout faire. Après, physiquement, c'est un peu juste, et puis surtout, ça manque de puissance et de constance. Et il est surtout, puisqu'on va rebondir sur ce qu'ont dit les spectateurs à Éric Mamrut...
on l'a teasé celui-là.
il est surtout un adepte du service à la cuillère. Je ne sais pas si vous jouez au tennis, Karim ou Hugo. Moi, ça m'arrive.
Karim, allez-y.
Il y a très 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 longtemps quand j'étais jeune, mais en gros, quand il y avait Roland-Garros, on s'amusait, on voyait Roland-Garros à la télé, et puis derrière, chez nous, on s'amusait à dessiner une ligne à la craie, et puis ensuite, on a deux, trois raquettes.
Le service à la cuillère, il est associé dans l'imaginaire collectif à Roland-Garros, à une édition et à un joueur en particulier.
À Michael Chang, effectivement. Mais ça, c'est une génération qu'on a Enfin, Olivier a connu, moi non. Mais en tout cas, c'est vrai que oui. Depuis Michael Chang, voilà, on n'avait pas vu de service, on a peu vu de service à la cuillère, et surtout, c'est considéré comme un geste un peu provocateur pour les joueurs. Donc, du coup, alors, de revoir voilà. Ça en scène aujourd'hui, alors, c'est
mais ce serait à ma portée, moi qui ne joue quasiment jamais.
Ça m'a porté aussi. Hein, c'est presque que ça, moi.
C'est presque enfantin comme technique.
C'est à la portée de tous les joueurs du dimanche matin.
Exactement.
Globalement, quand on ne sait pas servir, de temps en temps, à force de faire des doubles fautes, on se dit tiens, je vais en faire un à la cuillère, ça m'assurera d'être moins ridicule. 89, vous ne croyez pas si bien dire, mon cher Karim Baldé, j'y étais. Ah. Vous savez, c'était cette époque où on pouvait glisser un petit billet à l'entrée au contrôleur et puis vous laisser rentrer. Puis après, vous faisiez le pied de grue devant le cours central aux sorties pour espérer récupérer un billet. C'est ce qui s'est passé face à Lendl. Lendl menait 2-7-0, tout le monde est parti. Moi, je me suis dit, tiens, je vais voir un 7, on ne sait jamais. Puis j'ai récupéré comme ça un billet. Et puis j'ai vu ce match qui était un huitième de finale, cette victoire en 5-7 de Chang servant la cuillère et Lendl se tapant la tête avec le index là en disant mais il est fou ce gars-là. Et puis la suite, bah, c'est Chang qui gagne Roland-Garros. Et bah, pour revenir sur tout ça, je vous propose d'écouter Julien Varlet. C'est bien fait. Hein Julien Varlet, le consultant de Canal Plus Afrique, qui est un ami de notre maison. Nos auditeurs le connaissent bien. Et hier, on parlait de ça. Je lui dis tiens, allez, fais-moi un peu, raconte-moi, explique-moi ce qu'est le service à la cuillère. Comme le disait Karim, est-ce que c'est vraiment un manque de respect ou finalement ça devient une arme? Je vous propose d'écouter Julien Varlet.
Ouais, manque de respect parce que quand on remonte dans le temps, le premier à avoir fait ça c'était Chang en 89 sur le central de Roland-Garros contre Ivan Lendl. Ivan Lendl n'avait pas du tout apprécié, n'avait pas du tout aimé ce geste qui reste quand même. Il n'y a pas de loi, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. Tu es au service, tu fais vraiment ce que tu veux. Et ensuite, j'en ai plus revu du tout. Et avec Kyrgios qui est revenu sur le circuit, c'est Kyrgios qui a remis un petit peu ce service au goût du jour contre Nadal, par exemple, à Wimbledon, sur le central de Wimbledon. Mais par contre, Kyrgios le faisait un peu avec beaucoup plus de désinvolture, limite un peu toujours ce manque de respect. Le service à la cuillère dans la tête des joueurs, c'est le service où ben, quand tu ne peux plus gagner ou quand tu en as marre ou... Entre guillemets, comme on dit dans le jargon, quand tu balances, voilà, tu fais service à la cuillère. Maintenant, comme le fait par exemple un Bublik, qui le fait quand même très souvent, ou un Corentin Moutet, ça peut devenir une arme. Bublik, lui, a la différence, c'est que ça devient une arme parce qu'il sert entre 190 et 210 tous ses services, même en deuxième balle. Donc les adversaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent très très loin de la ligne. Et à partir du moment où tu fais un service à cuillère, tu as quand même tendance à jouer très court. Et donc ça devient, un service amorti. Donc tactiquement, un service très très bon, parce que tu surprends l'adversaire qui est très très loin de sa ligne. Corentin, c'est un petit peu différent. Parce que Bublik, même parfois, Bublik, il surprend un peu les adversaires. Les adversaires le disent à l'arbitre, mais je ne suis pas prêt, et il a servi. Alors que Corentin, lui, vraiment se prépare, et il fait vraiment un service par en dessous à la cuillère, avec surtout l'avantage qu'il a, étant gaucher, un effet que les droitiers ne connaissent pas ou n'ont pas l'habitude. Et surtout, sur un service comme ça à la cuillère, tu ne peux pas attaquer la balle. Vu que tu es surpris, tu arrives quand même un peu en bout de course, comme sur une amortie, donc tu relèves un peu la balle, et c'est le serveur qui devient en position de force pour avoir un coup facile derrière ce fameux service à la cuillère.
Du coup, pépère de celui qui ne sait pas servir le dimanche matin dans ses matchs par équipe en club, le service à la cuillère devient une arme aujourd'hui, et on voit même le public qui réclame ça.
Ouais, alors ça fait marrant, ça fait rire le public parce que t'en vois jamais, quoi. Je veux dire, c'est pas conventionnel. Quand tu vois un Zverev servir à plus de 210 quasiment pendant son match, tout le match contre Nadal, s'il venait à faire un service à cuillère, tu trouverais ça un petit peu bizarre. Maintenant, effectivement, ça devient une marque. Mais je me rappelle aussi, alors ça remonte un tout petit peu, c'était sur circuit secondaire, c'était Mackenzie McDonald, le joueur américain qui a quand même été 50 mondial. Il avait une grosse blessure à l'épaule, il ne pouvait pas se matcher, il ne pouvait pas servir. Et pendant quasiment, je crois que ça durait un petit 6 mois, il ne faisait que ses matchs en servant la cuillère. Mais les adversaires n'arrivaient pas à l'attaquer. C'est pas pour ça qu'il perdait 6-0, 6-0. Limite, il gagnait quelques matchs, il gênait les adversaires parce qu'il mettait des effets, il trouvait des angles que ben, les relanceurs n'avaient pas l'habitude de voir. Chez les filles, aucune fille fait des services à la cuillère. Et c'est pas un coup où tu t'entraînes. Tu vas t'entraîner à faire des premières balles, des services slicés, des services liftés. Le service à la cuillère, personne s'y entraîne. Maintenant, je pense, pour être franc, qu'un Corentin Moutet s'entraîne à l'entraînement à faire des services à la cuillère. C'est efficace. C'est efficace, il fait des points, donc je vois pas pourquoi il l'utiliserait pas ce coup. Maintenant, c'est pas conventionnel.
Olivier
Prond. Ça n'est pas conventionnel. Voilà. Ouais, alors j'ai une stat pour en terminer avec ça, mais bon, nos auditeurs l'ont compris, hein, le service à la cuillère, vous connaissez le service, ça va du haut vers le bas, la cuillère, c'est par en dessous. Depuis le début du tournoi, Corentin Moutet en a tenté 22 hein, dont 12 rien que pour son match du troisième tour. Et bah, sur les 12 qu'il a tenté lors de ce match-là, il en a réussi 4 sur 5, c'est-à-dire 79% de réussite pour ceux qui sont passés. C'est vous dire s'il peut mettre vraiment son adversaire en difficulté. Je ne suis pas sûr que Yannick Sinner soit trop en difficulté quand même là-dessus ce soir, on verra bien.
On se fait quelques notes de musique, Olivier, puis on vous retrouve tout de suite. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Roland Garros et notamment sur une certaine Onze Jabeur. Plaisir de Karim Baldé qui aime nos goûts latinos en termes de musique. Latino sur la langue, hein, parce que là ça nous vient du Cap Vert. Ça s'appelle Estanya Dinya et c'est chanté par Eli d'Almeida. Voilà, mais c'est très bien aussi.
Je l'enregistre dans ma playlist.
Oui, vous faites bien. La playlist de RFI est truffée de pépites. Musique.rfi.fr, c'est une adresse indispensable, tout comme il est indispensable de soutenir Onze Jabeur, la Tunisienne à Roland-Garros. Olivier Pron, en direct de la Porte d'Auteuil à Paris. Elle vient de se qualifier pour les quarts de finale. Onze Jabeur.
Oui, elle a longtemps eu du mal ici à Roland-Garros, Onze Jabeur, et puis voilà, c'est la deuxième année de rang où elle atteint le top 8. Elle a battu une Danoise, 72e mondiale, hein, Towson, qui avait eu le mérite de sortir deux anciennes finalistes ici juste avant, Sofia Kenin, l'américaine, et Ostapenko. Jabeur qui s'impose 6-4, 6-4. Elle égale donc son meilleur résultat ici, Porte d'Auteuil. Elle aura 30 ans dans quelques semaines. On rappelle qu'elle a été finaliste à Wimbledon l'année dernière, l'année d'avant, 2022, finaliste à l'US Open. Elle n'a encore jamais remporté de titre du Grand Chelem. Elle revient bien. Attention, en quart de finale, ce sera quand même Coco Gauff, hein, en face.
Numéro 3, c'est ça.
Qui a été finaliste ici, ouais, c'est ça. Troisième joueuse mondiale, Coco Gauff en pleine bourre. De toute façon, chez les femmes, toutes les favorites sont là, hein, c'est pas compliqué. Même s'il y a eu quelques petites surprises, hein, c'est en général comme ça dans le tableau féminin. Quelques-unes arrivent à se frayer un chemin, mais au final, on a encore Swiatek, évidemment. Évidemment, trois fois victorieuse ici. Elle a signé aujourd'hui sa 18e victoire de rang, Iga Swiatek. Et alors là, vous connaissez le score, bien sûr.
Ah bah c'est la double bulle, hein. 6-0, 6-0.
Ouais, il a bien suivi, Karim Baldé.
Je l'ai croisé en arrivant, Anastasia Potapova, elle avait gagné en vélo, elle était toute contente. 6-0, 6-0. Ça a duré 41 minutes et elle a marqué 10 points. C'est quand même une sacrée raclée.
Ah, c'est rude.
Ouais. Et alors juste derrière, Coco Gauff, elle se pointait contre une Italienne, là, Cocciaretto. Bon, bah, 6-1-6-2, hein, carré aussi. Ils n'ont pas vraiment eu de difficultés. C'est vous dire si voilà, Swiatek va être en quart contre Vondrousova. Attention, Vondrousova, c'est sérieux. C'est vainqueur de Wimbledon l'année dernière, finaliste de Roland-Garros en 2019. Et puis l'autre quart de finale dont on connaît l'affiche chez les dames, donc Coco Gauff face à 11 Jabeur. Franchement, ce sont deux très très belles affiches.
Karim Baldé sur 11 Jabeur, qui est la fierté africaine du circuit, mmh. et qui confirme dans des grands chelems, année après année, son statut de l'une des meilleures joueuses mondiales. Est-ce que c'est bien pour le rayonnement, enfin pour la participation plutôt de l'Afrique, du tennis africain au circuit mondial? C'est pas toujours gagné, évidemment.
Oui, c'est pas toujours gagné d'avance, et c'est une très bonne chose, évidemment, pour le tennis africain. C'est la porte-voix du tennis arabe, même plus généralement au-delà de l'Afrique. Et d'ailleurs, Olivier, je pense, ne me dira pas le contraire, mais il y avait une très grosse ambiance à mesure que le match avançait, et beaucoup de drapeaux tunisiens également, et y compris la communauté tunisienne qui se trouve en France et peut-être aussi en Belgique, a pu se mobiliser derrière 11 Jabeur, et ça fait plaisir. Maintenant, il lui reste ce dernier cap à franchir pour qu'elle devienne, on l'espère tous, vainqueur de Grand Chelem. Est-ce que ce sera pour cette année? Déjà, il va falloir passer Coco Gauff, mais je pense que si elle passe Gauff, là, au niveau de la confiance, ça pourrait aller au bout.
En tout cas, on suivra ça avec vous, Olivier
Pron. Swiatek ou Sabalenka, c'est quand même très fort aussi. Hein. Très fort, très au-dessus.
Ouais. Bon, en tout cas, ça vous fait un tableau féminin relevé. Il nous reste 2 minutes 30 dans Mondial Sport. Ça a commencé dimanche dernier. On est donc logiquement le dimanche d'après, Olivier. On est à mi-chemin. Ça peut peut-être nous faire un bilan. Et justement, est-ce que jusque-là, tout va bien malgré la pluie Porte d'Auteuil cette année?
Bah, alors déjà aujourd'hui, là, rendez-vous compte, tout d'un coup, on voit un peu de ciel bleu. C'est magique. Je vais peut-être sortir faire une photo. C'est un document.
En tout cas, vous ne voyez pas le toit du cours central qui servait justement à protéger de la pluie.
Ouais, il est replié, donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors oui, bah bien sûr, on a eu l'impression d'être en octobre 2020, hein, le monde en plus, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas de public. C'est vrai que ça a été une première semaine tellement triste de ce point de vue-là. On plaint tous les gens qui avaient des billets pour les cours annexes et pas accès à l'un des deux cours couverts. Les journées ont été très très longues sous la pluie, mais en même temps, quand la pluie s'arrêtait, on a eu des soirées fabuleuses, vraiment, avec des matchs, bah, comme ceux de Corentin Moutet, qui ont été incroyables. Et puis bah, hier soir, on a quand même eu, la nuit dernière, l'un des matchs les plus fabuleux de l'histoire de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti. Un match d'anthologie, n'ayons pas peur des mots, un niveau de jeu absolument incroyable.
Qui s'est terminé en boîte de nuit.
3h du matin.
Ouais. On ne sait pas avec qui dans le public, mais oui, en boîte de nuit. Djoko, phénoménal, immortel, 37 ans, à court de compétition. Et puis, bah, voilà, il vous sort Musetti, qui était pourtant tellement supérieur pendant 3 sets. Voilà, il est là, Djoko, et on va avoir une très belle deuxième semaine aussi chez les hommes, parce que tous les meilleurs sont là. On connaît une affiche d'un quart de finale, hein. Tsitsipas, Alcaraz, les deux qualifiés du jour. Et puis demain, on aura Djoko contre l'Argentin Cerundolo. On a quelques très... Zverev contre Rune, Medvedev est là, les meilleurs vraiment sont encore là. Donc oui, première semaine mitigée à cause du temps, on a critiqué le public, mais finalement hier il a été exceptionnel, et depuis 2-3 jours, plus aucun joueur ne se plaint de ce public. Djokovic lui a même rendu hommage. Donc voilà, allez, maintenant on a écrémé, place aux choses sérieuses, on fonce vers les quarts, les demi et la suite, et le plateau est là pour qu'on en profite et qu'on se régale.
Le sprint final de Roland-Garros, ce sera à suivre avec vous, avec Eric Mamrut, avec Frédéric Suto. Merci aux envoyés spéciaux de RFI, dont vous, Olivier Pron. Merci Karim Baldé. Vous voyez qui? Allez, un nom. Vous n'avez pas le
chez
temps
les hommes,
de plus.
Ouais. Zverev.
Et chez les dames?
Chez les dames, sans surprise, Gaciantec. Je vois pas qui pourrait la battre.
Bon, on ressortira la cassette en cas de plantade pour se moquer. Merci,
c'est pas
Claude
beau.
Battista, à la réalisation. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.